Alors pour ce Radio Barque 20e, 3e partie, je disais en tout début d'émission que notre invité c'est Monsieur Guissier, qui est maire de Fleury, encore maire de Fleury. Je précise tout de suite, pour lever certaines ambiguïtés, que Monsieur Sier, vous avez décidé de ne pas vous représenter. C'est la raison pour laquelle on peut vous avoir aujourd'hui dans ce type d'émission. On sait que vous n'allez pas faire de la propagande électorale, d'autant plus que... En plus de ça, vous avez décidé de rester neutre pour la suite des élections. Alors, vous avez une grande expérience, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez été, en quelques mots, monsieur Sier, vous avez été conseiller municipal dans divers, sous divers mandats avant d'être maire vous-même.
J'ai effectué 5 mandats, un en partie en qualité de conseiller municipal. 2 comme premier adjoint de 2 maires différents.
De couleurs différentes aussi.
De maires, les couleurs, ils n'affichaient pas trop de couleurs politiques à ce moment-là. Mmh. Le premier de 89 à 94 ou 15 était Christian Marty, et le second Raoul Hortala. J'ai été le premier adjoint de ces 2 maires, et puis je suis devenu 2 fois maire à mon tour. En 2008 et 2014.
Voilà, monsieur Hortala était quand même tendance socialiste.
Non, plutôt centriste.
Plutôt centriste, voilà. Voilà, pour resituer les étiquettes, comme disait tout à l'heure.
C'est un vigneron.
Alors donc, c'est cette expérience qui nous intéresse aujourd'hui, puisque vous avez décidé d'arrêter votre carrière. Vous avez vécu donc tous ces mandats municipaux. En même temps, vous avez vécu quelque chose qui est nouveau, c'est l'arrivée de l'agglo, l'intercommunalité. Voilà. Vous nous direz, monsieur Sier, ce que vous en pensez. En bien et en mal, d'ailleurs. Mais peut-être commençons par un truc très symbolique, la bulle de Saint-Pierre, que vous avez vécu toute votre carrière, j'imagine, et que vous êtes en train d'éradiquer pour revenir à une situation plus normale. Alors, rappelez-nous cette histoire.
Voilà. Alors, la bulle a été construite en 1988.
Inaugurée, en tout cas, 88.
Avec le but de célébrer au 1er janvier le bicentenaire de la Révolution française. Le but était de montrer que d'ici 200 ans, puisque 200 ans s'étaient écoulés jusqu'en 1989, donc 200 ans plus tard, l'espace serait peuplé et la mer serait habitée. Ah, donc le projet, c'était de montrer ça. De montrer qu'il y aurait des gens qui vivraient sous la mer et qui pourraient communiquer, par exemple, de scaphandre à scaphandre, avec des gens qui seraient dans l'espace.
Qui était maître d'ouvrage? Alors, qui avait décidé?
C'était un projet plus vaste, le projet NISA, qui visait à transformer la basse vallée de l'Aude en Silicon Valley. Il était prévu, donc, une plateforme multimodale au moment où l'autoroute de traverser la rivière, la gare TGV à Nissan-les-Anserunes, une station touristique de 25 000 lits en rive gauche de l'Aude à Vendres, et une station, une cité lacustre de 6 000 lits aux cabanes.
Rien que on était en plein rêve touriste.
À la baguette, il y avait du beau monde. Il y avait... Effectivement, Guillaume Castro, l'architecte des banlieues. Pour faire mousser ça, il y avait Séguéla, l'homme de la force tranquille. Et pour la liaison de scaphandre à scaphandre, il y avait le spationaute Jean-Loup Chrétien et l'architecte de la mer, Jacques Rougerie, qui sont tous les deux beaux-frères et qui ont de la parenté avec monsieur Fabius.
Oui.
Voilà dans quel contexte on était. Bon. Le résultat des courses, c'est que l'opération a coûté 9 millions d'euros. En pure perte, dépensé en pure perte et n'a jamais pu fonctionner. L'opération a dérapé. Elle était prévue, parce qu'au départ, on parlait en francs. Donc, elle était prévue pour 12 millions de francs en 89, au mois de février. Elle est passée à 15 millions au mois de mars, 45 millions au mois de mai et 60 millions de francs, soit 9 millions d'euros à la fin en décembre. Et l'eau n'était pas claire et ça ne fonctionnait pas.
Oui, je me souviens d'ailleurs du maire qui a succédé à monsieur Montagnier en 89, qui nous parlait à ce micro de Grand Sud FM d'effet pastis.
Oui.
Alors, pour l'eau.
Voilà, c'était lié au fait que Pour y voir, il faut que l'eau soit claire. Or, d'abord, ils avaient prévu de la mettre en mer, mais la mer Méditerranée n'est jamais claire. À l'avant de, devant le rocher, mais en pleine mer. Donc, ils l'ont mis derrière le rocher sur la plage. À cet endroit-là, il y avait une résurgence en pied de clap d'eau douce qui venait se mêler à l'eau salée. Voilà. Et dès qu'on mélange de l'eau douce et de l'eau salée, ça fait l'effet pastis. Voilà. On n'y voit rien.
Bon, alors ça a été, vous l'avez dit, d'une part un échec total sur le par rapport au projet, puis ensuite un gouffre financier pour votre commune, Guissier.
Voilà, on a mis 4 ans à s'en remettre. Pendant 4 ans, quasiment rien n'a pu être fait, sinon payer la dette. Voilà, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que le maire de Fleury de l'époque, Christian Montagnier, a été instrumentalisé, je pèse mes mots, par au plus haut niveau de l'État. Il était conseiller régional, on lui a dit « ne vous inquiétez pas, le président vient d'être réélu, les financements suivront, vous pouvez signer ». Et puis, au moment de l'échec, tout le monde s'est débiné, passez-moi l'expression, et l'ardoise est restée à la commune. Nous avons fait de la procédure et nous avons réussi à récupérer une partie de ces 9 millions d'euros, mais pas tout.
Oui. Loin de là. Voilà. Donc, c'est cette espèce de croisade et de calvaire que vous avez subi, que vous venez de nous résumer en quelques mots. Et alors, maintenant, alors, 30 ans plus tard, puisque 88, arrivons à 2018-19, vous êtes attaqué probablement un rêve ancien, éradiquer ce truc-là.
Voilà. Alors, aujourd'hui, ça ressemblait à un bassin d'eau glauque, en plein milieu de la plage, au centre de Saint-Pierre.
Oui,
les gens qui n'étaient pas informés croyaient que c'était les eaux de la commune qu'on traitait là-dedans.
Station
ça ressemblait à un bassin d'épuration. Par ailleurs, c'était dangereux. Des gens sautaient la clôture, s'y baignaient la nuit, jetaient des cailloux sur la bulle immergée et fissuraient les vitres qui la protégeaient. Voilà.
Oui, parce que c'était une bulle de verre.
Et puis, on avait une friche touristique qui défigurait la plage.
Alors, comment avez-vous pu attaquer à ce truc fort ancien?
Voilà. Alors, comme ça ne pouvait pas fonctionner, que ça ne pouvait pas rester là éternellement pour des raisons de sécurité, on a mobilisé tous les partenaires de l'époque. Et ils nous ont suivis, c'est remarquable. On a décidé de monter un projet de mise en valeur du rocher de Saint-Pierre, de restitution de la plage dans son état initial. On mise sur le fait que l'endiguement de la bulle qui contribue à l'ensablement du rocher de Saint-Pierre va, en l'éradiquant, ça va permettre de désensabler le rocher. Il est menacé, le rocher de Saint-Pierre, de ne plus être affronter la mer, mais d'être au milieu de la plage. Il s'est ensablé à vue d'œil, puisque le transit éolien qui venait buter sur la bulle était dirigé vers l'avant du rocher. On pense que ça permettra de remettre la plage en l'état, mais aussi de désensabler le rocher de Saint-Pierre, qui est une merveille, c'est un site classé. C'est au rocher de la Clape, qui a plus de 200 millions d'années, et qui affronte la mer maintenant, depuis près de 10 000 ans. La mer qui l'a sculptée, déchiquetée, et c'est le seul massif rocheux face à la mer, entre le cap de la Franquille et le cap d'Agde.
Ah bon, voilà. C'est un lieu, effectivement.
Voilà, il est classé. On va le mettre en valeur.
Classé, rien de moins.
Et il y a beaucoup d'amateurs de photos qui viennent y photographier les tempêtes de Méditerranée.
Voilà. Donc, votre but, c'était de redonner un peu l'aspect naturel des choses à ce site.
Voilà, dans un premier temps, remettre de son attrait initial au rocher. Dans un deuxième temps, réaliser une promenade au plus près de la mer qui partirait du port de Narbonne-Plage jusqu'à l'étang de Pissevache, où on pourrait se promener à pied au plus près de la mer. Ça permettrait déjà une chose. Vous savez, à une époque, il y a eu la loi Chalandon qui a permis de bâtir sur le sable. C'était autrefois le maritime inconstructible, était défini par les lés et relais de la mer. Puis il avait été adapté sous Chalandon une bande inconstructible de seulement 60 mètres par rapport au niveau moyen des eaux. C'est devenu 100 mètres aujourd'hui, et il était possible de l'endiguer et de bâtir ensuite sur les terrains derrière. Ce qui a été fait un peu partout, à Saint-Pierre, dans la plage. Voilà. Or, aujourd'hui, avec la montée de la mer, les maisons qui se trouvent face à la mer, au niveau des baraquiers, mais aussi vers le port, sont protégées par une digue qui est affouillée par la mer, qui est attaquée, et qui sont menacées par la submersion marine. Donc si on pouvait faire une promenade une vingtaine de mètres devant ces maisons et ensuite au plus près de la mer, ça ferait une belle balade jusqu'au rocher de Saint-Pierre et après jusqu'aux étangs de Pissevache, parce que la commune a 6 kilomètres de plage de sable fin, avec la traversée donc des étangs et du marais.
C'est un trajet continu. Que vous
voilà, ça permettrait, en toute saison, d'aller se promener au plus près de la mer, de venir se poser un moment sur le rocher de Saint-Pierre, et ça contribuera à l'attraction de Saint-Pierre. Mais on va y arriver, pour la tranche centrale, on va y arriver.
Ouais. Et sur le plan urbanistique, ça laisserait peut-être un peu de marge entre la mer et ses maisons, cet endiguement ?
Oui, aux endroits, effectivement, où les maisons sont à ras de la digue, il faut faire la digue devant elle. Ensuite, la digue reprendrait le front de mer, si vous voulez, la place du marché, la place, si vous voulez, à droite du rocher de Saint-Pierre. On se promènerait au plus près. Et ensuite, on repasserait sur la dune chez Métoff, qui a été faite à l'époque, en 2006, pour empêcher la mer d'attaquer violemment la protection de l'arrière. Donc, on pourrait se balader au plus près de la mer, du port jusqu'aux étangs.
Donc, voilà un grand projet que vous avez initié. Maintenant, comme on le sait, on l'a dit, vous ne vous représenterez pas. Il y a encore, on va évoquer peut-être encore certains problèmes en suspens pour lesquels vous vous êtes battu souvent. Par exemple, lorsqu'il y a une crue, après des inondations, une crue de l'eau dans ce pays, eh bien, la plage des cabanes de Fleury, les cabanes de Fleury, c'est un morceau de la commune de Fleury, c'est bien
tout
ça.
Tout à fait, oui.
Se retrouve encombrée de tout un tas de cochonneries innommables.
Voilà. Alors, il s'est produit un changement dans les lieux en 1988, au moment du projet NISA dont je parlais.
Oui.
À ce moment-là, pour rendre l'Aude navigable jusqu'au canal du Midi et pour permettre aux marins de la mer de rencontrer à la cité lacustre des cabanes les mariniers du canal du Midi, ils ont modifié le débouché en mer au niveau des cabanes. Ils l'ont incurvé vers la plage de Fleury, alors qu'il était perpendiculaire à la plage. Le résultat de cela, c'est qu'à chaque crue, avec la violence du courant, tout ce que l'on transporte atterrit sur nos 6 kilomètres de plage. Et le site des cabanes est un des sites les plus menacés, les plus encombrés de détritus de toutes sortes de tout le bassin méditerranéen, puisque l'Aude est un fleuve qui transporte beaucoup de débris. Pour ce qui est des déchets d'origine anthropique créés par l'homme, 10 000 bouteilles de plastique à chaque crue, de la ferraille, des animaux morts. Là, on a des bénévoles qui nous aident à les enlever. Ça ne pose pas de problème. Le bois flotté lui-même.
Oui, les troncs, les branches.
Les troncs et les grosses branches. Nous pose pas de problème non plus. Nous avons des chargeuses avec des griffes très larges. Nous avons des bennes céréalières. Nous savons les enlever sans prendre trop de sable. Ce qui nous pose problème véritable, un problème quasiment insurmontable, ce sont les rémanents des travaux de débroussaillage. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des épareuses, ce sont des outils qui vous broient les roseaux en 40 cm de long, qui vous broient tous les végétaux, or ça, c'est jamais ramassé. Ça arrive sur la plage des cabanes de Fleury, et ça vous fait un tapis sur 30 ou 40 cm d'épaisseur, et sur des kilomètres et des kilomètres, où les roseaux se hérissent, et qui rend la plage difficilement praticable.
Alors, quelle est la solution technique ?
Donc, ce que nous pensons, nous, c'est que il y a pas 50 solutions. Ou on le traite sur place, hein, ou on l'amène en décharge. Si on le traite sur place comme nous le faisions, ça coûte environ 100 000 euros par an à la commune. Si on l'amène en décharge, ça va coûter entre 500 000 et 600 000 euros par an. Ouais. C'est tout à fait différent. Pour le traiter sur place, bien sûr, Le bois, on en faisait des tas et on les brûlait, c'est pas bon pour la couche d'ozone. Donc le bois flottait, les gros bois, les branches, les troncs peuvent être mis en pied de dune, puisqu'il y a des dunes. À l'époque, à la fin du 19e siècle, on a mis un vignoble dans le sable, le vignoble des Salines du Midi, on l'a protégé par des dunes. Donc on peut conforter ces dunes ou faire des dunes un peu plus en retrait, avec, comme le faisaient les anciens, avec ses troncs, ses branches, etc. Et mettre le rémanent dessus. Ou alors faire des casiers de rémanent, les recouvrir de sable et les planter d'oliviers de Bohême, de tamaris, de plantations qui résistent à la salinité, ça serait bon pour la biodiversité. Le seul inconvénient, c'est qu'on est sur les terrains du conservatoire du littoral et qu'ils ne souhaitent pas que l'on traite les rémanents comme cela. Donc s'il faut les amener en décharge, ça sera pas bon non plus pour la taxe carbone.
Ni pour la couche d'ozone, et transport.
Et ça coûtera très cher, plus de 500 000 euros. Donc la question est de savoir qui paye.
Voilà, parce que le gros problème que vous soulevez depuis toujours, c'est ça.
Évidemment, on nous pollue la plage, on nous envoie de tout sur la plage.
Et c'est toute l'eau à la fois, toute le département depuis et le fleuve.
De la source jusqu'à l'embouchure, le fleuve lui-même, ses affluents, tous les canaux afférents, voilà.
Et alors, donc, quelle solution finale d'ici?
Alors, la solution, c'est d'associer tous les responsables de l'opération. L'État, la région, le département, l'agglo. Et pour financer l'éradication de ces dépôts. Il faut qu'à chaque crue, chacun participe. J'avais demandé l'instauration d'une taxe pour chacune des communes, aidée par le département. Chacune des communes traversées par l'Aude en fonction du nombre d'habitants, du nombre de kilomètres.
Voilà. Donc vous créez une structure pérenne.
Mettrait 100 000 euros et à chaque crue, c'est une entreprise privée qui serait mandatée pour nettoyer la plage et pas les employés municipaux.
Voilà. Et est-ce que c'est possible et envisageable?
Alors,
ça
j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent depuis la sous-préfecture.
Livrez-les-nous.
Monsieur le sous-préfet, qui est un homme très dynamique et qui a beaucoup de respect pour la commune de Fleury, a pris le problème à bras-le-corps. Il a secoué tout le monde et il m'a certifié, y compris tout à l'heure, que sitôt les élections passées, il allait provoquer une réunion avec tous les partenaires pour que, soit dans le cadre du plan littoral 21, soit sous une autre forme, la commune de Fleury ne soit plus la seule à payer l'éradication de sa plage.
C'est-à-dire instaurer un système pérenne qui, à chaque crue, entrera en action et financera cette opération.
Exactement.
Voilà, et ça serait l'aboutissement de ce long processus.
Ah oui, là, il a fallu plus de 10 ans pour se faire entendre, c'est anormal, puisque sur la Dour, ils l'ont mis en place
longtemps. Ça fonctionne ailleurs du côté atlantique, apparemment. Voilà. Alors, Guissier, parmi les... Alors, je sais pas si c'est un problème pour vous ou pas, mais enfin, bon, vous quittez votre fonction. Et alors, comme on dit souvent, quand quelqu'un s'en va, est-ce que ça va créer un vide ou est-ce que ça va créer un trop-plein? Chez vous, apparemment, c'est un trop-plein, puisque pour cette élection, il y a 5 listes qui se présentent. Et vous avez décidé de vous tenir à l'écart.
Voilà, on peut le voir comme ça. Effectivement, il y a actuellement 5 listes qui sont en lice pour gérer la mairie. Parmi ces 5 listes, il y en a 2 qui sont l'émanation de mon propre groupe majoritaire. Donc, il y a des adjoints et des conseillers municipaux qui ont rejoint une ou l'autre des 2 têtes de liste issues de mon groupe.
Qui sont deux femmes.
Donc déjà, pour moi, ça complique un peu le jeu, puisque j'ai des amis dans les deux camps. Et que donc, il serait malvenu
de prendre parti.
Par ailleurs, dans les 3 autres listes, vous le savez, j'ai été élu au premier tour en 2014. Ça s'était pas vu à Fleury depuis des temps immémoriaux.
Donc
c'était le signe que des gens de tous bords avaient voté pour moi. Donc j'ai aussi des amis dans toutes les autres listes. Donc je préfère prendre de la distance par rapport à ça et rester au-dessus de la mêlée.
Voilà, ce qui peut se comprendre. Pour conclure, Guissier, un petit mot quand même sur ce que vous avez vécu, qui est l'agglo, une nouvelle façon de faire de la politique municipale et de la gestion municipale. En quelques mots, pouvez-vous nous en dire les avantages et les inconvénients? Mais rapidement.
Voilà. Alors, quand j'ai été élu en 89, on enterrait les morts. La commune. On ramassait les ordures ménagères, bien, et on les traitait, plutôt mal. On gérait l'eau potable et l'eau usée. Il n'y avait pas 150 contrôles comme aujourd'hui pour déclarer que l'eau était potable. On gérait la zone artisanale. On gérait la piscine. On gérait le tourisme. Tout ça est passé à l'aglo.
Ça fait donc, un pan énorme. Donc,
c'est un pan énorme de l'activité de la commune qui est passé à l'aglo. Avec, en assortiment, une masse salariale qui demeure la même. Et j'ai pas contribué, moi, à l'alimenter. Hein,
Pourtant, ce qu'il faut dire,
c'était le but initial.
Le personnel qui exerçait ces tâches aurait dû effectivement filer à l'aglo.
Voilà, c'était le but initial.
Voilà, ça a été joué de façon un peu particulière. Un certain nombre de personnels ont été envoyés à l'aglo, et pour un qui était envoyé à l'aglo, il en a été embauché deux en contrepartie. Donc, effectivement, voilà. Donc, moi, je suis favorable au principe de subsidiarité. Ça veut dire que ce qu'on peut faire bien à la commune, gardons-le à la commune. Ce qu'on fera mal, transférons-le aux strates supracommunales.
Voilà, c'est-à-dire, en deux mots, ça serait quoi?
Voilà, alors, par exemple, ramasser les ordures, on peut le faire bien. Voilà, donc, par contre, les traiter, on ne sait pas le faire. Donc, on le fait mal. Donc, ramassons-les. Au moins, on ramassera partout. Il n'y aura pas 400 mètres à faire pour aller vider la poubelle. Mais par contre...
Oui, alors il faut conclure, oui. Monsieur Sier.
Voilà, ce qu'on peut faire bien, faisons-le. Mais c'est pas ce qui est dans l'air du temps.
Voilà,
dans l'air du temps, c'est de diminuer la force des communes et de les remplacer par les agglos.
Oui.
Alors, juste un mot là-dessus. Je suis très très respectueux, moi, des principes républicains du suffrage universel. Je propose que, comme pour la commune, puisque l'aglo va remplacer la commune à moyen
terme,
un électeur, une voix pour les listes de l'aglo.
On revient à
un système. On sépare l'élection de l'aglo de l'élection municipale. Chaque municipalité envoie des représentants à l'aglo.
Et puis
ces représentants montent des listes et on remet ça, on fait voter une voix, un électeur, une voix pour l'aglo.
Voilà. Et dans ce cas-là,
et pas une commune, une voix, bien sûr, voilà, parce que sinon, une commune de 200 habitants a le même impact qu'une commune de 1500.
Voilà,
c'est pas le maximum de la démocratie.
Ce qui aurait le mérite d'éclaircir les choses. Merci en tout cas, Guy Sier, de ce témoignage. Alors, j'allais dire d'ancien, presque d'ancien, mais vous êtes encore maire en action de Fleury, je le rappelle. Pendant quelques semaines encore, à cause des élections, nous ne parlerons plus politique, municipal, bien entendu. Alors nous recevrons la prochaine fois le président de la FNAIM, c'est-à-dire l'immobilier sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, monsieur Frédéric Malquier. Après quoi nous parlerons de rugby où nous recevrons Gilles Belzon et nous reviendrons plus tard à la politique, mais après les élections, puisque Jacques Bascou sera également notre invité, mais après le deuxième tour. Merci de nous avoir suivis. Merci Guy Sier.
Merci à Radio Barque d'ouvrir ses micros aux représentants des communes du Nord Mônet.
Et à la semaine prochaine.